Tu t'ennuies ?
Tu sais pas quoi faire.
T'as qu'à écouter les super chroniques des bibliothécaires
de Bourg-en-Bresse.
C'est un mercredi par mois
à 7h30, 8h30 et 12h30.
Sur Radio B, bien sûr.
Bon, tu nous as ratés ?
Pense au podcast. Oui.
Bonjour chers auditeurs de Radio B et bienvenue pour les chroniques des bibliothécaires. Aujourd'hui, nous allons vous présenter des documents. Géraldine commencera par un roman pour les enfants à partir de 8 ans. Mélanie enchaînera avec un document pour la jeunesse, puis Maëlle une revue pour les adultes et enfin moi, Sophie, je finirai par vous présenter un roman pour les adultes. Et je laisse la parole à Géraldine.
Hello, merci Sophie. Bonjour à chacune, à chacun. Me voici ravie de vous retrouver pour présenter un roman, donc, à destination des enfants des 8-9 ans. Il s'agit du premier roman d'Alice Fagard, et je remercie les éditions Alice d'avoir choisi son manuscrit. La maîtresse a de la moustache. Oui, c'est le titre de ce roman, La maîtresse a de la moustache. Les élèves de cette classe de CM2, lorsque la maîtresse est arrivée dans la classe, ont assez vite remarqué cette particularité. Un mot a vite circulé dans les rangs, pendant que Consuelo Flores écrivait son nom au tableau. Je vous lis un petit extrait qui suit la découverte du mot, le mot que l'enseignante a donc rapidement vu. La maîtresse a une moustache. Elle eut un moment de surprise, et puis elle a souri, nous a regardé avec une pointe de malice. Une moustache ? Là, vous me surestimez un peu, les enfants. Elle est retournée au tableau. Elle a écrit en grosses lettres « La maîtresse a de la moustache ». Elle nous a regardés en se frottant les mains pour enlever la poudre de craie. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Ça semble plus juste, non ? Cette fois, on a ri, tous ensemble. Et on a senti qu'on pourrait bien s'entendre, la maîtresse et nous. Cette Consuelo Flores a de belles robes colorées, des bracelets cliquetants et de la moustache. Si cela les éberlue quelque peu, les enfants oublient rapidement ce détail et se prennent d'affection pour leur nouvelle maîtresse. C'est qu'elle connaît la signification des mots, qu'elle rend l'apprentissage plaisant et qu'on rit beaucoup dans sa classe. Les ennuis ont commencé quand les parents l'ont vue pour la première fois. Qui aurait pu croire qu'une simple moustache ferait autant d'histoires ? Seulement voilà, certains parents ont de bien vilains préjugés concernant Consuelo. Pour eux, elle néglige sa féminité et elle véhicule donc autant une image que des idées subversives. Les parents se réunissent et agissent pour faire renvoyer l'enseignante. C'est compté sans la perspicacité, l'intelligence collective et la solidarité des enfants qui trouvent les moyens de se faire entendre. Bien sûr, ce n'est pas toujours très réaliste, comme lorsque toute la classe se cache sur la mezzanine pendant que leurs parents sont réunis en bas dans le salon et ne s'aperçoivent de rien. Mais c'est égal. Les enfants sont les héros et héroïnes de cette histoire, au moins autant que leur maîtresse d'ailleurs. On s'attache à cette jolie palette de personnages enfants qui ont compris qu'en œuvrant en groupe, avec loyauté et solidarité, ils et elles se donnent la chance de faire entendre leur voix, et que leur voix importe. Plein de belles qualités donc pour ce premier roman généreux et optimiste. Et les illustrations d'Eva Châtelain soulignent encore la malice et l'énergie des enfants comme de Consuelo. Des invraisemblances, des exagérations parfois, mais qui sont au service des personnages et du dénouement, qui participent à rendre ce roman plaisant et facile à lire. On y parle des parents aussi. Alors jetez-y un œil par-dessus l'épaule de votre enfant, ça pourrait s'avérer instructif. La maîtresse a de la moustache, d'Alice Fagard, est donc un roman à lire dès 8-9 ans et que vous pouvez retrouver à la médiathèque Vaillant. Nous restons en jeunesse avec toi Mélanie.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, faisons un tour dans nos penderies avec un documentaire jeunesse de Virginie Alidjidi, qui s'appelle « Mode de la haute couture à la rue » aux éditions Actes Sud Jeunesse. Jeans, baskets, t-shirts et autres classiques ne se sont pas imposés par hasard dans nos placards. Ce livre nous montre donc comment ils ont évolué au fil des ans, des décennies ou même des siècles. On est d'accord, ce documentaire n'explique pas l'histoire avec un grand H, mais l'histoire de nos vêtements y est liée. Avec ce qu'il faut de chiffres et de noms de ceux qui ont fait la mode, dans un style pop et coloré, ce livre nous entraîne au cœur des révolutions vestimentaires. Et oui, en passant de la rue à la haute couture, ou inversement, d'un usage exclusivement masculin aux femmes, des milieux sportifs, musicaux, professionnels, jusqu'aux défilés de mode, la mode sait se réinventer et suivre les questions sociétales. Elle peut choquer avant de révolutionner les habitudes de toutes les classes sociales. En plus de s'informer, on y trouvera des anecdotes. Comme la grippe au XIXe siècle.
Mais qu'est-ce qui s'est passé ?
Le nombre de cas de grippe a baissé.
Grâce à quoi ?
Eh bien grâce à un certain type de robe, la crinoline. Tellement imposante qu'on ne peut s'en approcher. La distanciation, maintenant ça parle à tout le monde. Et puis, qu'est-ce qu'un t-shirt bedaine ? Une momie égérie, on aura tout vu. Passons au dessin. Autant présents que le texte, ils sont crayonnés comme des croquis de stylistes, sans faire penser à des mannequins. L'illustratrice, Cécile Perrin, est du milieu, comme on peut le dire. Spécialisée dans la communication du luxe et de la beauté, elle crée les logos et packaging de divers produits. Dans ce livre, le combo texte-image est joli et pratique. Il permet de comprendre le propos rien qu'en survolant les titres. Notamment, grâce aux mots-clés au début de chaque chapitre, on retient les grandes tendances des différents vêtements évoqués. Parmi toutes ces qualités, j'ai particulièrement apprécié que l'aspect environnemental soit abordé. Fast fashion, greenwashing, fripe, upcycling ou seconde main, il est temps de découvrir toutes les coulisses du prêt-à-porter et d'adopter de nouvelles manières de créer et de consommer. Bref, un livre qui a du style, et si vous dites devant votre dressing grand ouvert « je n'ai rien à me mettre », courez en jean basket à la médiathèque Césaire, empruntez mode de la haute couture à la rue. Pour tous les âges, à partir de 8 ans. Et je passe la parole à Maëlle.
Merci. Aujourd'hui, c'est une revue culturelle italienne, Radici, que je vais vous présenter. Elle est écrite en italien et en français. Elle est idéale pour ceux qui souhaitent perfectionner leur compréhension écrite de l'italien avec des aides de traduction en marge de certains articles, utilisant parfois un vocabulaire plus soutenu que le langage parlé. Elle aborde des sujets d'actualité, de la politique à la jeunesse des années 1950 à nos jours, des recettes régionales et nationales, des paysages et trésors cachés du territoire, le tout illustré par de magnifiques photographies d'époque ou actuelles. De quoi donner l'eau à la bouche pour les plus gourmands d'entre vous, ou vous donner envie de vous mettre au fourneau tout simplement. De nombreuses thématiques sont abordées. Des propositions d'itinéraires de voyage, l'actualité, l'histoire internationale, des dates d'anniversaire, de la musique, de la culture, des arts, de l'environnement, l'histoire italienne, la cuisine italienne, des travaux littéraires ou encore des mots croisés, ou encore un agenda culturel avec des sorties de livres, de musique et de cinéma. Chaque numéro contient un dossier documentaire d'une dizaine de pages. Être jeune en Italie de nos jours est bien y vivre pour le numéro du mois d'octobre, par exemple. Une revue complète où chaque lecteur pourra y trouver au moins un article qui l'intéresse. Dans le numéro de mai à août, vous pouvez trouver un focus sur l'exploitation des pierres précieuses dans la région de Matera, mais également une réflexion sur les personnalités publiques inhumées au Panthéon ou encore une interview autour d'auteurs contemporains sur la musique au service des causes sociales et internationales. Un seul petit bémol, beaucoup de choses à lire, donc une petite police d'écriture, parfois fatigante sur la durée. À vos loupes en tout cas. Une source d'information, de lecture, de divertissement et d'ouverture culturelle à retrouver à la médiathèque Camus. Je laisse maintenant la parole à Sophie.
Merci Maëlle. C'est un petit cabinet médical. On y accède après avoir traversé un couloir en crépi beige, très beige, puis longé un patio fleuri, très fleuri. Parfois, ça sent les fleurs séchées, parfois rien du tout. 13 chaises grises et noires vous attendent dans une salle d'attente qui ne paye pas de mine. Il n'y a pas de journaux à feuilleter, car ce ne serait pas hygiénique. Certains patientent avec un livre, le plus souvent avec leur téléphone portable. D'autres, je le sais, je surprends des regards, poirotent en se demandant pourquoi leurs voisins de chaises sont là, si c'est grave, s'ils ont pleuré, si c'est une simple conjonctivite ou s'ils vont bientôt mourir. Ce cube au mur blanc où le silence règne est idéal pour échafauder des hypothèses. Est-ce que le vieux croulant va s'effondrer sur le carrelage beige, la main crispée sur la poitrine? Le médecin va-t-il sauver quelqu'un aujourd'hui? Pas certain. Ce que je peux promettre en revanche, c'est de les écouter attentivement. Ainsi commence le sixième roman de Baptiste Beaulieu, médecin généraliste, écrivain et chroniqueur sur France Inter. Entre les croûtes, les coups et l'écoute, un docteur fictif prend le pouls de l'humanité, celle qui a besoin de parler, de se confier, de se sentir exister. Les consultations s'enchaînent chez ce médecin de famille, sans jamais se ressembler. Le docteur, sans s'imposer ni imposer de traitement, est de ceux qui adaptent leur médecine aux patients, à leurs besoins physiques et mentaux, qui demandent l'autorisation d'ausculter, de regarder, de pénétrer, qui expliquent leurs actes médicaux. Les patients sont très nombreux, trop nombreux, dans ce désert médical. Ils s'appellent Alvaro, Zina, Madame Chaïd, Monsieur Barry ou Josette. Chacun raconte son histoire, avec son corps et ses mots, en laissant ainsi apparaître leurs croyances, leurs souffrances, les violentes faites aux femmes, leur peur de la maladie, de la mort, leur espoir de rémission. Le narrateur enchaîne les anecdotes avec toujours pour fil rouge ses larmes taries depuis le jour où son ambulance ne trouva pas assez vite la maison d'un enfant mourant. Il écrit sans honte sur la nature éphémère du corps humain, sur notre égalité face à la souffrance, sur la posture de soignant, de sachant face aux patients. Sa profession aux abois, il n'hésite pas à dénigrer le contenu des études de médecine, l'impasse faite sur l'approche émotionnelle et certaines pratiques abusives de ses collègues, tout en remettant en question sa propre pratique. J'ai lu ce roman d'une traite, totalement absorbé par l'écriture tantôt philosophique, drôle ou dramatique. Assise sur mon fauteuil, j'avais le sentiment de partager un moment avec un ami critique, mais toujours bienveillant. Alors merci aux éditions L'Iconoclaste d'avoir publié les quelques 270 pages d'humanité du roman « Où vont les larmes quand elles sèchent » de Baptiste Beaulieu. C'est un livre à retrouver à la médiathèque Vaillant et en livre numérique. Merci pour votre écoute et nous vous souhaitons toutes un beau mois de novembre.
Bye bye!
Tu t'ennuies?
Tu sais pas quoi faire?
T'as qu'à écouter les super chroniques des bibliothécaires
de Bourg-en-Bresse.
C'est un mercredi par mois
à 7h30, 8h30 et 12h30.
Sur Radio B, bien sûr.
Bon, tu nous as ratés?
Pense au podcast.
Wouhou!